CQFD. Stéphane Gabiou.
Bonjour à toutes et à tous, nous vous emmenons en Grèce ce matin à la découverte des paysages préhistoriques qui ont été submergés par la mer et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur notre passé. Les archéologues suisses se lancent dans un projet tout à fait fascinant, Quentin Bollen.
Terra Submersa, c'est le nom de ce projet qui a pour but d'aller faire des recherches archéologiques sous-marines dans une région bien précise du sud de la Grèce. Pour cela, les chercheurs de l'université de Genève, qui sont à l'origine de l'expédition, vont collaborer avec Planète Solar. Vous savez, ce catamaran géant qui fonctionne à l'énergie solaire. Ouais. Cette collaboration pourrait nous aider à mieux comprendre le processus de sédentarisation chez l'homme en Europe.
La foudre, ensuite, elle est dangereuse, elle peut tuer. Et ce constat assez étonnant, il semble que la foudre soit plus meurtrière en Amérique du Sud que partout ailleurs. Selon une étude effectuée par des chercheurs brésiliens, il y a eu l'année passée 1,7 personnes foudroyées pour 1 million d'habitants, alors que cette proportion n'est de que de 0,1 en Europe et aux États-Unis. Pierre Bracci.
Oui, et en plus, le nombre de personnes foudroyées ne cesse de croître d'année en année. Les chercheurs ont plusieurs explications, comme le manque d'informations de la population, le réchauffement climatique et la déforestation. Mmh. Un exemple, la ville de Manaus, en plein cœur de l'Amazonie, et qui a connu ces dernières décennies une forte expansion géographique, reçoit 50% d'éclairs de plus qu'il y a 30 ans.
Enfin, Bastien Confineau, vous nous proposez de mieux comprendre une maladie aux aspects très surprenants, le syndrome Gilles de la Tourette.
Qui est souvent associé à la coprolalie, c'est-à-dire le fait de dire involontairement des mots vulgaires. On va voir que ça ne représente qu'une petite partie des symptômes. Gilles de la Tourette, c'est avant tout un syndrome de tic moteur accompagné de quelques tics vocaux.
À la découverte des paysages préhistoriques submergés en Grèce, le grand nombre de morts foudroyés en Amérique du Sud et le syndrome Gilles de la Tourette. Bienvenue dans CQFD. Nous apprenions hier que Planète Solar reprenait le large cet été. Vous savez, ce catamaran géant qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Planète Solar se met cette fois au service de l'archéologie avec le projet Terra Submersa, Quentin Bollen.
Oui Stéphane, le printemps passé, Planète Solar avait mené l'expédition scientifique Deep Water pour récolter des mesures climatiques le long du Gulf Stream. On avait d'ailleurs fait une émission, on est allé en direct sur le bateau, vous en souvenez.
On est à Miami notamment.
Voilà. Mais cette année, le catamaran servira à faire des recherches archéologiques. Alors l'Université de Genève, en collaboration avec le l'Athénium de Neuchâtel, le Service grec des antiquités sous-marines, l'École suisse d'archéologie en Grèce et le Centre hellénique de recherche maritime, part à la découverte des paysages préhistoriques submergés.
Les paysages préhistoriques submergés, en quoi consiste ce projet ?
Alors le but de l'expédition est d'explorer des sites préhistoriques engloutis par la mer dans le golfe de Nauplie, en Grèce, pour les reconstituer et repérer des traces d'activité humaine. Mmh. Et comme vous le savez, Stéphane, enfin peut-être vous le savez pas, mais il y a 20 000 ans, à la fin de la période glaciaire, le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.
Oui.
Et en retrouvant des sites préhistoriques submergés, il est possible de reconstituer la vie des hommes à cette époque, ou tout du moins d'essayer de l'imaginer.
Oui.
Grâce à ça, on pourrait identifier la façon dont les zones côtières étaient peuplées. Et si on arrive à découvrir des villages, il serait peut-être possible de déterminer comment s'est fait le passage à une vie sédentaire en Europe. Alors tout ça pourrait remettre en doute la théorie selon laquelle la sédentarisation de l'homme en Europe serait venue du Moyen-Orient par voie terrestre.
Beaucoup d'enjeux dans cette expédition et pour en parler, nous accueillons ce matin dans nos studios Julien Beck, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans CQFD, chargé de cours à l'Université de Genève, responsable scientifique de ce projet Terra Submersa. Expliquez-nous. Comment est né d'abord ce projet ?
Alors, il est né graduellement. C'est une longue aventure, comme souvent en archéologie, passant par plusieurs étapes. Mais c'est vrai qu'avec les derniers éléments de la recherche sur la préhistoire en Méditerranée orientale, et plus spécifiquement sur la navigation, il devenait pour plusieurs raisons intéressant de s'intéresser à nouveau à cette zone du golfe de Nauplie et plus précisément, à la grotte de Franchetti, une grotte avec un nom difficile à prononcer,
ouais,
qui se trouve sur la rive d'une petite baie dans le golfe de Nauplie et qui est effectivement plus spécifiquement concernée par notre recherche sur ces paysages préhistoriques submergés.
Alors Quentin le disait, vous voulez y repérer les vestiges de nos ancêtres préhistoriques. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir là-bas, dans cette grotte ?
Alors, ce n'est pas dans la grotte directement, puisque la grotte, elle a déjà été fouillée au fait au XXe siècle par une équipe américaine. Ce qui nous intéresse, c'est les environs de la grotte, c'est-à-dire toute la zone en contrebas de la grotte. Aujourd'hui, la grotte est tout près du rivage. Et dans le passé, dans la préhistoire, principalement, on l'a dit effectivement, il y a 20 000 ans par exemple, lors de la fin de la dernière période glaciaire, là, c'est vrai que le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Ouais. Partout sur le globe, le niveau des mers était inférieur, d'une différence pouvant aller jusqu'à 130 mètres.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc effectivement, toute la géographie du globe était différente, avec des milliers de kilomètres carrés de terre qui étaient alors en dehors de la mer et qui sont aujourd'hui submergés. Donc les environs de cette grotte, spécifiquement dans le golfe de Nauplie, nous intéressent parce que cette grotte a une spécificité, c'est qu'elle a une très très longue séquence d'occupation. Elle a été occupée pendant 35 000 ans, ce qui en fait quelque chose d'exceptionnel pour la préhistoire, non seulement pour la préhistoire grecque, mais aussi pour la préhistoire européenne. Ce qui fait que si on s'intéresse aux environs de la grotte qui sont actuellement submergés, on sait, comme la grotte a été occupée pendant 35 000 ans, que pendant 35 000 ans, ces rivages préhistoriques ont aussi été occupés.
Mais on va retrouver quoi ? Des maisons ou des ustensiles
Alors justement, on parlait de ces changements dans le mode de vie humaine. Sur ces 35 000 ans d'occupation de la grotte de Franchetti, effectivement, on a des modes de vie très différents, puisque c'est la fin de la préhistoire. En gros, l'occupation commence il y a 40 000 ans et finit il y a 5 000 ans. Et ce sont les dernières phases de cette préhistoire avec des changements majeurs dans l'histoire de l'humanité. Entre autres, le passage effectivement d'un mode de vie de chasseur-cueilleur, nomade, à un mode de vie d'agriculteur et d'éleveur sédentaire. Et c'est une des choses qui nous intéresse spécifiquement, et c'est un des aspects qui nous a effectivement attirés aussi vers cette grotte de Franchetti et ses environs. Donc, encore une fois, ce n'est pas la grotte elle-même, puisqu'elle a déjà été fouillée, qu'elle est hors de l'eau, mais c'est les environs, c'est la partie en contrebas. Aujourd'hui, c'est une petite baie, et à l'époque, c'était une vallée probablement assez agréable pour s'y installer.
Ouais, donc vous nous avez dit c'est donc la fin de la préhistoire, donc c'est le début de la sédentarisation, donc du passage au néolithique, et donc c'est à ce moment-là que vraiment les peuples commencent à se fixer. Et en quoi vos découvertes elles pourraient permettre d'en savoir plus sur cette transition justement ?
Alors cette transition effectivement elle est fondamentale pour l'humanité, puisque pendant des centaines de milliers d'années l'homme a vécu comme chasseur-cueilleur, encore une fois comme nomade, et que effectivement tout à la fin de cette préhistoire, il y a disons 12 ou 10 000 ans, il a commencé à y avoir au Proche-Orient des changements majeurs, encore une fois, qui ont mené à cette nouvelle étape, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est le passage, effectivement, vers le néolithique. Et ce passage vers le néolithique, il ne s'est pas fait très rapidement, il s'est fait graduellement, en plusieurs millénaires, durant un processus qu'on appelle néolithisation. Donc le processus de passage entre le paléolithique et le néolithique. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce passage au Proche-Orient, il y a une diffusion de ce mode de vie néolithique. Et les populations d'alors, au Proche-Orient, effectivement, vont transmettre ce mode de vie en direction de l'Europe, en l'occurrence en direction de l'Ouest.
Donc mode de vie sédentaire.
Mode de vie sédentaire et activités différentes, agriculture et élevage, alors qu'avant, on se livrait à la chasse et à la cueillette principalement. Donc ce qui est très intéressant pour les chercheurs, c'est d'essayer de comprendre comment cette transition s'est faite depuis le Proche-Orient jusqu'en Europe, jusqu'en Suisse.
Donc elle a forcément passé par la Grèce, d'où votre intérêt pour
Alors, ce livre, c'est ça ? Elle a forcément passé, en tout cas, par la Grèce, mais de manière peut-être différente. On a longtemps cru qu'il y avait un pont terrestre, donc il y avait une avancée par les terres de ce nouveau mode de vie néolithique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ce serait un passage par la Turquie actuelle, puis par les détroits, Bosphore et Dardanelles, puis disons une arrivée en Grèce du Nord, en Bulgarie actuelle. Or, effectivement, je le mentionnais auparavant, depuis quelques années, on a fait des découvertes quant à la navigation préhistorique. On la croyait pas si ancienne, elle commence bien avant ce qu'on pensait. Et donc, on réalise à partir de là que c'est aussi possible qu'en parallèle à ce mode de diffusion terrestre, il y ait eu un mode de diffusion maritime, de ce mode de vie néolithique.
Donc les habitants du Proche-Orient, soit par la terre, soit, et ça serait quelque chose de nouveau qu'on découvrirait par la mer, auraient influencé le mode de vie de nos ancêtres à nous ici en Occident, et aurait fait, ce que j'appelle l'Occident aujourd'hui évidemment, et aurait fait qu'on est devenu des sédentaires.
Exactement. Et donc, ce golfe de Nauplie, cette baie de Kylada et la grotte de Franchetti, qui sont dans le sud de la Grèce, n'intéressaient pas par le passé les chercheurs sur les questions spécifiques de passage au néolithique, puisque justement on pensait que cela se faisait plus au nord. Désormais, la grotte est de nouveau d'actualité, la grotte et ses environs, de nouveau d'actualité pour ça aussi, puisque ce n'est pas impossible que ce mode de vie néolithique ait été diffusé par mer, peut-être par mer et par terre, dans des proportions qu'on ne connaît pas, mais en tout cas qu'il y ait des éléments maritimes dans ce mode de diffusion.
Scientifiquement, quelle technique allez-vous utiliser pour faire vos recherches? Là, on est vraiment dans les profondeurs de la mer.
Alors scientifiquement, effectivement, il y a une double approche à ce projet. C'est vraiment un projet interdisciplinaire, international aussi. Et là, les méthodes scientifiques sont d'une part les mesures géophysiques pour essayer de reconstituer ces paysages préhistoriques submergés, et d'autre part la fouille sous-marine préhistorique qui effectivement peut permettre ensuite d'aller plus en détail, disons, compte tenu des découvertes qui sont faites par les mesures géophysiques.
Et vous fouillez comment alors là-bas dessous? Parce que tout est englouti.
Tout est englouti, effectivement, et de plus, on a peut-être des zones passablement chargées de couches et de couches de boue sur le fond marin, donc les choses vont être difficiles. Mais là, il y a une technique particulière en archéologie sous-marine qui implique l'utilisation d'une forme d'aspirateur, un aspirateur hydraulique, puisque effectivement, on utilise la force de l'aspiration de l'eau pour retirer les sédiments couche par couche, comme on le fait exactement sur une fouille terrestre.
Mais c'est du boulot, ça, j'imagine.
Beaucoup de travail, ouais. Perspective.
Et alors, on le disait, hein, vous collaborez avec le bateau Planète Solaire. Qu'est-ce que va vous permettre de faire ce bateau?
Alors, Planète Solaire, c'est un fantastique atout pour nous, pour l'Université de Genève et pour tous les partenaires du projet, puisque, effectivement, d'une part, eh bien, il va s'avérer très pratique pour les mesures géophysiques et pour la fouille préhistorique sous-marine. C'est un catamaran avec un relativement faible tirant d'eau, donc il peut là aussi manœuvrer dans des eaux qui nécessitent effectivement une sorte de va-et-vient constant pour les mesures. Bien sûr aussi, son côté solaire sera servi par le climat de la Grèce l'été. Hein. Là, ce sera plein soleil pour Planète Solaire. D'autre part, c'est aussi bien sûr un fantastique outil de communication et la présence de Planète Solaire ne passe jamais inaperçue. C'est pareil que l'on se trouve dans les eaux grecques ou que l'on se trouve effectivement sur la façade est des États-Unis. Donc, d'une part, une mission de communication pour présenter aussi au public grec ce qu'est l'expédition, et d'autre part, une mission scientifique avec nous.
Et justement, je me demandais pourquoi est-ce que nous, les Suisses, on est si doués dans l'exploration des sites sous-marins préhistoriques? Ça peut sembler étonnant, quoi, à première vue.
Alors effectivement, on a une tradition très spéciale en Suisse à cause des travaux sur les stations lacustres, ces sites palafitiques qui font que depuis plus de 150 ans, effectivement, on a cette expertise non seulement de fouilles sous-marines, mais de fouilles sous-marines préhistoriques, ce qui est encore quelque chose de plus spécifique.
Alors, expédition prévue donc pour cet été. Les premières découvertes, vous pensez qu'elles pourraient intervenir quand? Directement, dès que vous arrivez sous l'eau, assez vite, on pourrait trouver des choses?
Alors, c'est toujours le problème avec l'archéologie. Il faut du temps. Ouais. Et effectivement, dans un premier temps, il faudra ces mesures géophysiques. Puis, il faudra aussi le travail des archéologues pour vérifier, par les moyens que nous évoquions, en plongée, ce qui a pu être découvert par ces mesures géophysiques. Et à partir de là, on verra. C'est aussi beaucoup de chance, beaucoup de hasard. On pourrait ne pas trouver grand-chose, on pourrait trouver quelque chose d'absolument fantastique si, par exemple, on tombait sur un village.
Julien Beck, chargé de cours à l'Université de Genève, responsable scientifique de ce projet TerraSub. Merci beaucoup pour ces détails donc, concernant cette expédition dont le but est d'explorer les paysages préhistoriques submergés, peut-être de découvrir l'origine finalement d'une partie de la sédentarité des peuples européens. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Quentin Bollen. Et puis évidemment, on vous souhaite bon courage pour ce projet, cette expédition.
Merci.
Ce soir, mon amour, je sombre. J'ai régné sur le monde avant que mon ciel s'effondre. Je déguste chaque seconde comme si c'était la dernière. J'aurais tenté d'être un bon père, un bon fils, un bel ami. Il semble que ça n'ait pas pris. Le cœur rongé par le spleen à rebours dans ma limousine. Ce jour est un jour parfait. is just a perfect day. Sa beauté qui torpille, mon regard qui vacille. Avant j'étais inutile, un cow-boy dans la ville. Ils sont tous morts, les Indiens. Je me pensais, j'avais enfin le cœur rongé par la joie. À rebours de sa peau de soie. Ce matin est le premier, aveuglé de beauté. Pour tous et tout le temps, tous ces jours transparents. Même si le monde a la peste, ce qui nous reste, afin d'oublier la peine, voyons nous-mêmes ce sombre espoir.
Voilà, ils ont réussi à finir, hein. Il faut toujours savoir finir. Extrait de leur album Beauté pour tous, la maison Tellier qui chantait à rebours. On vous emmène en Amérique du Sud à présent. On était en Grèce tout à l'heure. C'est un long et beau voyage aujourd'hui dans CQFD. Selon des chercheurs brésiliens, la fréquence des morts foudroyées est 17 fois plus élevée en Amérique du Sud qu'en Europe ou aux États-Unis. Alors c'est un fait, hein. L'Amérique du Sud est plus exposée aux orages puisqu'elle se trouve dans la zone tropicale. Mais malgré tout, cette exposition aux orages ne suffit pas à expliquer la grande quantité de personnes foudroyées dans ces régions. Pierre Bracci, vous nous donnez quelques chiffres pour commencer.
50 morts cette année, rien qu'en Argentine, plus de 150 au Brésil. La foudre en Amérique du Sud est le phénomène naturel qui tue le plus de personnes par année. Selon Osmar Pinto Jr., lui, il est coordinateur du ELAT, le groupe brésilien de l'électricité atmosphérique, et qui a publié le mois passé ces chiffres, le nombre de morts par année est de 1,7 par million d'habitants en Amérique du Sud, contre 0,1 en Europe et aux États-Unis. Alors, compter 600 millions d'habitants en Amérique latine, Mexique inclus, oui, ça fait à peu près 1000 foudroyés par année.
Oui, ça fait beaucoup. Et si je reviens donc sur une des explications possibles, il y a plus d'orages en Amérique du Sud qu'ailleurs.
C'est vrai que le continent est, avec l'Afrique, la région sur Terre où il y a le plus d'orages. La fréquence des éclairs la plus élevée se trouve au nord de l'Argentine, au Venezuela et au centre de l'Afrique. Une fréquence qui peut atteindre 50 à 70 impacts par kilomètre et par année. En Europe, c'est le Tessin et le nord de l'Italie qui ont la palme avec une quinzaine d'impacts. Donc effectivement, plus de foudre en Amérique du Sud qu'ailleurs. Mais ceci ne suffit pas à expliquer l'énorme différence entre l'Amérique du Sud et les pays développés comme l'Europe et les États-Unis. Selon les chercheurs brésiliens, le manque d'informations et les mauvaises infrastructures sont les deux raisons principales.
Alors les mauvaises infrastructures, tout d'abord, qu'entendez-vous par là, Pierre ?
C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Eh bien, les scientifiques brésiliens ont en effet remarqué que dans leur pays, plus de 20% des foudroyés le sont dans leur maison. Et ce chiffre atteint même 35% en Colombie, alors qu'en Europe, c'est tout juste 1%. Et c'est là où intervient la défectuosité des infrastructures. Les réseaux électriques et téléphoniques sont mal protégés et peuvent conduire la foudre sur des personnes et provoquer destruction et incendie. D'où l'importance, par exemple, de la mise à terre.
Alors, les gens seraient mal protégés et également mal informés, nous disiez-vous ?
Oui, l'information est aussi très défectueuse. Les gens ne savent pas quand il y a des risques d'orage et que faire pour se protéger de la foudre. Ça, c'est des défauts des services météo et des services de prévention des pays d'Amérique latine. Une ville comme São Paulo, par exemple, reçoit entre 500 000 et 1 million d'impacts de foudre par année. Oh. Il est donc important de savoir au moins ce qu'il ne faut pas faire.
Comme se cacher sous un arbre, hein, par exemple, je crois.
Oui, oui, exactement. Et ça, c'est certainement le cas le plus connu. Mais on peut aussi se réfugier dans un immeuble, ou on peut aller dans un autobus, voire dans une voiture si on est dans un endroit isolé. Ne pas utiliser un téléphone avec câble, éviter de tenir des objets métalliques à la main, genre canne à pêche ou canne de golf, ou encore faire voler un cerf-volant. Évitez également de se retrouver dans un endroit plat et désert comme une prairie ou bien sûr une plage. Au cas où on ne peut pas trouver un endroit moins isolé, alors il faut se mettre en position fœtale et se boucher les oreilles, car il y a des gens qui sont devenus sourds, rien oui. qu'avec le bruit du tonnerre. Et puis si on est dans l'eau, eh bien, il faut en sortir rapidement et s'éloigner de la plage. Il y a eu cet été un cas qui a choqué toute l'Argentine. Un éclair a tué 4 adolescents et blessé une vingtaine qui étaient sur une plage lors d'un orage. Mais on le sait, la proximité de l'eau peut favoriser les impacts de foudre.
4 adolescents tués et 20 blessés. 20 blessés dans cet exemple. Comment est-ce qu'on peut récupérer d'un tel choc ?
Choc, effectivement, vous l'avez dit, la tension peut atteindre plusieurs dizaines de millions de volts, mais on peut s'en sortir. Par exemple, au Royaume-Uni, ce ne sont pas moins de 60 personnes par année qui survivent à un impact de foudre. Mais il faut aussi dire que 75% des blessés par foudre souffrent d'une incapacité plus ou moins sévère et permanente. Alors, il y a 3 formes d'électrocution que peut provoquer la foudre. La décharge directe, le courant traverse le corps. La décharge de côté, on va dire, la foudre touche un objet et, entre guillemets, saute sur la personne. Mmh. Et enfin, la décharge à terre, qui est la plus insidieuse, c'est celle qui tue les haches, par exemple. La différence de potentiel électrique due à l'impact fait qu'une tension se crée entre 2 points, 2 pattes, par exemple, et un courant peut passer, et dans ce cas-là, électrocuter l'animal. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs de garder les jambes serrées lors d'impact de foudre au sol pour éviter qu'un courant passe d'une jambe à l'autre. Peut blesser la personne.
Voilà. Et justement, lorsqu'elle blesse la foudre, quel genre de blessure peut-elle provoquer ?
Eh bien, le passage du courant fait en général exploser les petits vaisseaux capillaires qui irriguent la peau. Alors, ça forme de très jolies figures appelées fleurs d'éclair ou arbres de lumière à cause de leurs ramifications qui rappellent des arbres sans feuilles. Le nom scientifique est moins poétique, on va dire. Ce sont les figures de Lichtenberg, du nom du physicien qui a décrit ces blessures. Le passage de la foudre peut également faire des trous, et oui, des trous dans l'organisme, dans les pieds ou dans les organes internes. Comme le cas de cet Anglais qui a été foudroyé, c'était il y a 2 ans, en tenant une fourchette de barbecue. Il a eu les 2 pieds percés, ainsi que ses poumons. Il a survécu grâce à ses amis qui l'ont réanimé pendant plus de 20 minutes. Et plus curieux, les hommes ont 4 fois plus de chances, ou de malchance on va dire, d'être touchés par la foudre, car plus souvent dehors que les femmes, selon la Société Royale de Prévention des Accidents du Royaume-Uni.
Alors malgré tout, j'ai cette question qui me vient, Pierre, et sachant en tout cas que chez nous, disons en Europe ou aux États-Unis, nous sommes bien protégés, relativement bien informés, est-ce que le nombre de morts et de blessés suite à voilà, un coup de foudre, j'allais dire, est en diminution ?
Eh bien non, au contraire, et ceci non parce que les gens sont moins informés ou moins prudents, mais parce que le nombre d'impacts de foudre augmente au cours des années, et l'explication de ce phénomène tient en 2 mots, réchauffement climatique.
Comment le réchauffement climatique peut-il influencer le nombre d'éclairs ?
Le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, le GIEC, estime que dans un climat plus chaud, il y aura plus d'éclairs, mais pas forcément plus de pluie. Une augmentation de 1 degré, donc de la température de la Terre, pourrait augmenter le nombre d'éclairs de 10%, une augmentation qu'ont déjà remarqué d'ailleurs les météorologues ougandais, indiens et brésiliens. Des Brésiliens qui ont étudié minutieusement la ville de Manaus, au cœur de l'Amazonie, ils ont constaté une augmentation de 50% des impacts de foudre en 30 ans, mais seulement dans la région urbaine et rien dans les alentours où la forêt a été préservée. Pour les scientifiques, le béton de la ville provoque la formation d'une bulle de chaleur qui est la cause de l'augmentation des éclairs. L'augmentation de la température en dehors de Manaus a été seulement de 0,3 degrés alors qu'elle a été de 0,7 dans la ville. Donc plus d'éclairs, plus de monde, la mortalité ne va pas diminuer. Pour les experts brésiliens, il y aura bientôt plus de monde foudroyé que par inondation ou tremblement de terre, et ceci d'ailleurs dans l'indifférence générale, puisque les accidents restent quand même tout assez rares et le nombre de victimes par impact est très faible.
Pour terminer, Pierre, est-ce que les boules de feu genre Tintin et les 7 boules de cristal existent et est-ce que c'est dangereux ça aussi ?
Eh bien oui, ça existe. C'est un phénomène très rare qui se produit à l'impact de la foudre au sol. Il s'agit d'une boule lumineuse, une sphère lumineuse de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de diamètre et dont la durée de vie est de 2 à 6 secondes à peu près. Elle peut rester sur place ou alors se déplacer de plusieurs mètres par seconde et finit sa courte vie par une forte explosion, hein, comme dans les 7 boules de cristal justement, ou en s'éteignant doucement. On ne reporte pas de mort pour le moment car le phénomène est très rare et selon les témoignages, il est tellement incroyable eh bien que la majorité des témoins restent sans réaction.
Il y a plus de morts foudroyées en Amérique du Sud que partout ailleurs dans le monde. Alors certes, oui, il y a plus d'orages là-bas, mais il y a aussi des infrastructures défaillantes et des populations mal informées. Sujet foudroyant préparé par Pierre Bracci. Voici Gustave sur la première.
À cause de toi, je deviens fou. À cause de toi, je suis à bout. À cause de toi, je me sens mal. À cause de toi, tout m'est égal. À cause de toi, je sens à cause de toi, je balance tes couteaux. À cause de toi, je suis devenu extrême. Un animal, une brute, une bête humaine. À cause de toi, y a des taches sur les murs. À cause de toi, j'ai le visage plein de griffures. À cause de toi, y a des trous dans mon fauteuil. À cause de toi, mon coussin pue le vieux chevreuil. À cause de toi, ma vie est devenue sombre. À cause de toi, je ne sors plus de la pénombre. À cause de toi, je tremble des mains et des jambes. Et je le dis fort pour que tout le monde l'entende. J'ai des cloques sur mes deux genoux. À cause de toi, je ne peux plus dormir dans mon lit. À cause de toi, ça sent la pisse sur le tapis. Ménage à toi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non, non, ménage à toi. Ça va pas. Un, deux, trois, non. Cette vie, cette bête et moi. Entre nous, je ferai mon pas si t'as un écureuil ou un rat. Une sorte de chien raté, une espèce de chat. J'ai jamais vu une créature si moche, si laide. Où est-elle la maîtresse de cette putain de bête? C'est à cause d'elle que je bouffe dans une écouelle. C'est à cause d'elle que je suis devenu obsessionnel. À cause d'elle que je rampe comme un chasseur dans mon appartement en guerre contre un rongeur.
C'est CQFD, votre émission de science et de santé. Voici à présent quelques courts témoignages de personnes qui souffrent d'un syndrome très particulier, le syndrome Gilles de la Tourette.
Quand on dort, on n'est pas en état d'éveil. Et je veux dire, c'est au moment où on se réveille, on fait trois pas, trois activités, hop, ça revient. Et ça rentre dedans. Et ça, bon, c'est insupportable.
Quand je parle l'anglais, j'ai plus aucun tic.
Oh, ici en France, j'arrive à vivre parce que... Oh, en Algérie, les gens ne comprennent pas ça. Et c'est une folie, c'est ça, c'est une merde. Ici en France, il n'y a personne qui m'embête. Ah
Mais c'est quand je fais une amour avec des personnes, j'ai pas de tic.
Le syndrome Gilles de la Tourette, on l'associe souvent au fait de dire des mots vulgaires. Hein. On vient d'en entendre un petit peu. Vous vous êtes penché sur la question, Bastien Confino, ça n'est pas que ça.
Non, loin de là. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est avant tout des tics moteurs et quelques tics vocaux, effectivement. 20% seulement des personnes atteintes par Gilles de la Tourette souffrent de coprolalie.
Coprolalie, c'est donc le fait de dire ces mots obscènes, c'est ça?
Exactement. Et cette coprolalie est la conséquence d'un défaut d'inhibition. Vous n'arrivez pas à vous contrôler, ça c'est typique du syndrome Gilles de la Tourette. Mais ce ne sont pas forcément des mots obscènes. C'est plutôt le fait de dire ce qu'on n'est pas censé dire dans une situation donnée. Ouais. Je vous donne un exemple. Mmh. Vous entrez dans une boulangerie.
Ouais.
La boulangère vous dit bonjour.
Bonjour.
Oui. Vous êtes poli, vous voulez répondre. Un bonjour madame serait le plus approprié. Impossible, indépendamment de votre volonté, c'est un « bonjour ma chérie » qui va sortir.
Oui,
autre situation, vous allez à votre premier rendez-vous galant, vous êtes un peu stressé, vous avez envie de séduire, faut éviter à tout prix les faux pas. Vous vous dites « bon, je vais pas être trop direct, je mise sur la subtilité ». Vous arrivez devant la jeune femme, vous vous apprêtez à la saluer, et là les mots sortent tout seuls, vous déclamez un magistral « je t'aime ». Question approche en douceur, on a vu mieux, et ça, pourtant c'est totalement involontaire. Alors ça c'est pour les tics vocaux, mais je le disais, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est aussi beaucoup de tics moteurs. Définition plus précise de Michael Schubbach, il est responsable du Centre des mouvements anormaux à l'hôpital de Lille, à Berne, et il est le spécialiste européen du syndrome Gilles de la Tourette.
Ce syndrome se caractérise par des critères qui ont été définis un peu arbitrairement. Il s'agit d'un syndrome de tic. Donc un tic est un mouvement involontaire, bref, un peu stéréotypé. Il peut être assez complexe aussi. L'appareil de la vocalisation fait partie du tic. Alors on a un son, un mot, un bruit qui est le résultat du tic. Donc le Gilles de la Tourette est un syndrome de tic. Et c'est un peu la variante maximale donc de la gamme de troubles de tic qui existe. Et le syndrome de Gilles de la Tourette est un syndrome de tic où on exige que plusieurs tics moteurs plus un tic vocal persistent pendant un an sans pause de plus de 3 mois. Donc on exige une certaine sévérité de tic.
Vous dites c'est une gamme, ça veut dire qu'il y a une espèce de continuum de pas de tic, au tic Gilles de la Tourette, puis arbitrairement à un moment on dit voilà, maintenant s'il y a tant de tic pendant un an, c'est Gilles de la Tourette.
C'est ça, exactement. Donc par exemple, il y a des patients qui ont des tics uniquement moteurs, qui n'ont jamais eu de tic vocal. Par définition, ils n'ont pas de syndrome de Gilles de la Tourette parce que le tic vocal manque. Néanmoins, ils peuvent avoir des tics assez gênants au niveau moteur. Donc il s'agit d'une définition. Mais ce qu'il faut savoir, tout tourne autour des tics. Donc ces mouvements ou vocalisations, bref, un peu explosifs, qui ont comme caractéristique qu'on peut les supprimer pendant un certain temps. Et souvent, il y a une rattrapette après. Les enfants, les gens arrivent à se retenir, par exemple à l'école ou au travail. Et après, quand ils sont seuls ou rentrent à la maison, les tics reprennent.
Beaucoup de maladies sont liées à une observation neurologique, un défaut dans le cerveau, une observation génétique. Pourquoi ne se baser que sur les symptômes ?
Parce qu'il s'agit d'une définition descriptive pure. On ne connaît pas la cause du syndrome de Gilles de la Tourette, on ne connaît pas la cause des tics. On sait maintenant beaucoup plus qu'on savait lors de la définition par Gilles de la Tourette, mais on n'a pas de pathophysiologie spécifique, unique, qui définit le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc ça reste un syndrome, alors une association de symptômes qu'on regroupe pour définir une entité de façon descriptive.
Gilles de la Tourette, donc syndrome de tics moteurs et vocaux, la définition est arbitraire, on l'entendait, il faut des tics moteurs et au moins un tic vocal pendant une année sans interruption de plus de 3 mois. En Suisse, ça touche combien de personnes, Bastien ?
On peut dire environ une personne sur 800, mais si on prend des critères un petit peu moins restrictifs, selon une étude de l'University College à Londres, une personne sur 100 est concernée pendant au moins une période de sa vie, donc c'est pas forcément une maladie si rare qu'on veut bien le le dire. Maintenant, suivant les degrés avec lesquels on est atteint, on peut vivre plus ou moins bien avec cette maladie. C'est ce que nous raconte le cardiologue de La Chaux-de-Fonds, Simon Monard. Lui-même a été atteint par ce syndrome. Le syndrome est beaucoup plus faible aujourd'hui. Il a encore quelques tics moteurs, mouvements involontaires du bras et de la tête, mais rien à voir avec le début de sa maladie. Simon Monard.
C'est brusquement à l'âge de 19 ans qu'un jour je me suis mis à avoir des mouvements très violents d'hyperextension de tout le tronc qui, quand je me couchais, ça me faisait décoller du lit de 20 cm. Et donc dans ce contexte-là, j'ai été hospitalisé et puis on a fait quelques investigations qui n'ont pas abouti au diagnostic. Et c'est que à peu près une année plus tard, quand les tics sont devenus plus complexes, plus caractéristiques de ce qu'on observe dans le syndrome de Gilles-Latourette, que le diagnostic a pu être posé.
Donc ça, c'est à 19 ans. Vous dites que ça se déclenche brusquement. Est-ce qu'il y a eu un événement, vous pensez, qui a déclenché ça ?
Alors, chez moi, il n'y a pas eu d'événement en particulier. Peut-être qu'il y a eu un contexte. C'était le début de ma deuxième année d'études de médecine où là, il y avait beaucoup de travail à faire. Et il y a un certain stress lié aux études. Mais le jour en particulier où ça s'est déclenché, non, pas particulièrement. J'étais avec des amis dans un chalet. Et puis ça s'est manifesté ce jour-là.
Comment ils ont réagi ?
Oui, ils étaient assez dubitatifs, disons. Ils ont appelé une ambulance parce que c'était impressionnant.
C'était avec quelle fréquence ?
Toutes les 20-30 secondes, je décollais de mon lit où je m'étais couché. Après, ça s'est espacé. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, les ambulanciers aussi se posaient des questions. Après, c'est clair, la façon dont c'est survenu durant le week-end avec des copains, on a commencé par rechercher les toxiques dans les urines. Quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien, ils se sont creusés la tête.
Ça a duré relativement longtemps. Vous dites, après, ça s'est calmé, mais c'est une question de jours, de mois, d'années.
Alors, je dirais, je suis resté quelques jours à l'hôpital où là, ça s'est clairement espacé, où ça venait peut-être une fois par heure ou quelques fois par heure, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir une vie normale. Et puis, c'est que après, je dirais presque une année, que j'ai commencé à pousser des cris, puis ensuite, plus tard, des mots, que là, c'est devenu plus caractéristique, disons.
Quand vous dites des mots, c'est la fameuse coprolalie, les gros mots que vous disiez ?
Non, c'était pas forcément des gros mots, ça pouvait être simplement le fait soit de répéter le dernier mot que j'ai entendu. Par exemple, je me souviens, si en prof du bas de l'auditoire, il disait bonjour, ça m'arrivait de répéter bonjour, bonjour.
Et au moment où vous répétez le mot, vous en êtes conscient ?
Oui, alors tout à fait. En principe, je suis toujours conscient des tics que je fais. C'est juste peut-être dans les périodes où ils étaient très nombreux et puis que voilà, à part ça, il faut vivre quand même. Donc moi, j'y fais plus attention. C'est en voyant la surprise face à mon interlocuteur que ça me fait prendre conscience que oui, j'ai eu un tic. Mais c'est juste simplement parce qu'on n'y fait plus attention.
Socialement, vous parlez de votre interlocuteur. Comment vous gériez ça ?
Alors, c'est vrai que c'est là toute la question et toute la problématique du syndrome Gilles-Latourette. C'est que c'est des manifestations surprenantes qui, si elles sont interprétées comme volontaires, peuvent paraître comme franchement déplacées. Ça pouvait aussi paraître inapproprié de faire toute une histoire de ça et de présenter cette problématique quand c'est pour juste une entrevue brève ou quelqu'un qu'on n'est pas amené à revoir régulièrement. Donc là, je dirais, le but, c'est plutôt d'essayer de contrôler. Et puis voilà, s'il y a quelque chose qui s'échappe, on va donner une brève explication, pas forcément sur le syndrome Gilles-Latourette, etc., mais simplement dire ça m'arrive ou bien c'est des tics. Voilà.
Vous avez reçu une prise en charge de la part du monde médical. Qu'est-ce que vous avez essayé pour contrôler ces tics ?
Alors, j'ai initialement essayé différents médicaments. Assez vite, je me suis rendu compte que c'était difficile de rendre compatibles les médicaments et puis la poursuite des études par le fait des effets secondaires, essentiellement la somnolence pour les médicaments que j'essayais. Et puis ceux qui ne créaient pas la somnolence, ils n'étaient pas efficaces pour moi. Et puis finalement, je me suis assez vite rendu compte que le problème social, il était résolu par le diagnostic. Donc même si je continuais à avoir pas mal de tics, c'était pas handicapant, c'était pas gênant. Donc la souffrance ou la gêne ou les conséquences sur la qualité de vie étaient tellement faibles que pour moi, ça ne justifiait pas de subir des effets secondaires. Après, c'est très variable d'une personne à l'autre. C'est clair que pour quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui ou bien qui est handicapé socialement par rapport à son syndrome de la Tourette, ben, lui, il sera prêt à faire davantage d'essais.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire... Pute salope, enculé!
Simon Monard, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à en rire? Est-ce que parfois vous êtes dans des situations un peu cocasses et puis ça fait rire vos interlocuteurs mais vous riez avec eux?
Oui, alors je dirais même couramment, même avant le diagnostic, c'est peut-être comme ça que j'ai réussi à le surmonter sans en faire un drame. Et c'est vrai que souvent il y a des situations très drôles.
Comme quoi?
Typiquement quelque chose que personne n'oserait dire, mais que tout le monde pense, chez moi ça va sortir tout seul. Et ça fait rire tout le monde parce que personne n'a osé le dire. Alors des fois on va dire, mais oui, mais tu fais exprès parce que t'as la bonne excuse du syndrome pour pouvoir oser le dire. Donc c'est...
Mais c'est pas le cas.
Joker.
Jeudi prochain.
Simon Monard, quelles sont les manifestations de ce syndrome aujourd'hui?
Alors je dirais actuellement il n'en reste plus grand chose, notamment dans mon activité professionnelle ça n'interfère plus du tout. C'est exclusivement quand je suis détendu ou le soir ou dans un contexte plus festif, animé, que là ça va se manifester par des tics, par le fait d'émettre des bruits ou de dire des mots ou des choses sans rapport avec le contexte, disons. C'est comme ça que ça se manifeste dans ce contexte moins contrôlé, plus avec des amis.
Ça veut dire que vous avez appris à maîtriser ces tics?
Au fur et à mesure de l'évolution, moi, j'ai eu de plus en plus de contrôle dessus. Déjà, je me suis aperçu qu'il ne venait pas quand j'étais absorbé par quelque chose, par une activité. C'est plus ça qui a une influence sur le fait qu'il se manifeste ou pas qu'un contrôle volontaire. Après, c'est clair, c'est possible de volontairement les contrôler, mais là, ça demande plus d'énergie, plus de concentration, et c'est au prix d'un effet, ce qu'on appelle un effet rebond par la suite, le fait que au moment où on arrête, où on lâche le contrôle, ça va augmenter en fréquence et en intensité.
Simon Monard, cardiologue à la Chaux-de-Fonds, que l'on remercie d'ailleurs pour ce témoignage. Simon Monard qui maîtrise temporairement ses tics. Alors je me dis, Bastien, dans son activité de cardiologue, il n'opère pas, mais est-ce qu'il aurait pu le faire?
Oui, parfaitement. Il l'a fait en fait au cours de ses études. Il a fait un petit peu de chirurgie et même de la neurochirurgie.
Oui.
Ça s'est toujours très très bien passé. Une fois qu'il est concentré, les tics disparaissent complètement. Par contre, ça recommence après par effet rebond.
Alors, le témoignage de Simon Monard, mais c'est vrai que jusqu'à présent, pour moi, cette maladie reste quand même très mystérieuse. Je ne comprends pas comment le cerveau peut générer ces tics moteurs et ces tics vocaux.
Et vous n'êtes pas le seul pour qui c'est mystérieux. Les neurologues, eux non plus, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et d'où ça vient. On retrouve Michael Schubbach, responsable du Centre des mouvements anormaux à l'hôpital de Lille de Berne.
On sait quelles structures sont impliquées, donc ce sont les ganglions de la base, les lobes frontaux, donc des structures du cerveau, où on a trouvé des anomalies structurelles et de fonction chez les tiqueurs ou des cerveaux examinés de patients décédés qui avaient des tics, mais on n'a pas vraiment mis le doigt sur la cause des tics. Peut-être il n'y en a pas une, mais plusieurs causes ou plusieurs effets qui doivent jouer ensemble pour que des tics se produisent.
Ces tics, juste pour essayer de comprendre, à un moment, pour que on provoque un mouvement involontaire, par exemple de la main, il y a une impulsion électrique qui passe dans les nerfs et qui vient activer un muscle.
Bon. C'est un peu résumé.
C'est, de principe, on peut dire, l'information pour le mouvement passe du cortex du cerveau, selon le premier motoneurone, au niveau de la moelle épinière, et ensuite, par un deuxième motoneurone de la moelle épinière, jusqu'au muscle. Cette information qui va du cerveau jusqu'au muscle, pour déclencher un mouvement, doit être modulée, réglée, vérifiée, corrigée, et il y a beaucoup de structures qui sont justement dans la fonction de ce contrôle du mouvement. Et aussi, une grande partie des mouvements se passe de façon automatique. Si vous deviez penser à chaque mouvement consciemment, on n'arrivait même plus à respirer, vous imaginez. Donc, une grande partie des mouvements se passe automatiquement. Donc, il y a des programmes qui sont établis dans le cerveau et des structures qui sont responsables pour un contrôle automatique de l'amplitude, de la rapidité des mouvements, du tonus musculaire, de la sélectivité des muscles. Et déjà, un tout petit défaut dans ce contrôle résulte en un tremblement, un tonus musculaire pathologique ou un des mouvements trop amples ou trop petits. Et comme j'ai dit, les structures vraiment clés dans le contrôle du mouvement sont les ganglions de la base. Et les ganglions de la base sont un peu la centrale de contrôle et de modulation, modification des mouvements. Et de différentes maladies qui touchent aux ganglions de la base résultent en différents types de mouvements anormaux, comme le Parkinson, la dystonie et aussi l'éthique.
Revenons sur le syndrome Gilles de la Tourette. À partir de quel âge est-ce que les premiers symptômes apparaissent ?
Ça peut apparaître très très tôt dans l'enfance. Des enfants de 2, 3, 4 ans peuvent avoir des tics. L'âge où normalement ou en moyenne débute des tics, c'est entre 4 et 6 ans, donc relativement tôt. Comme j'ai dit, les tics sont quelque chose de très commun chez l'enfant et surtout, ne faut pas en faire un drame. Un petit tic, il faut savoir ce que c'est. Il faut surtout, si on est parent ou instituteur ou institutrice à l'école, il faut savoir que c'est quelque chose de bénin et surtout aussi quelque chose que l'enfant ne produit pas volontairement pour provoquer. Donc, avec une très très grande probabilité, dans le temps, ça va se perdre. Par contre, si les tics deviennent très visibles ou audibles, gênants, ça peut quand même interférer avec la vie quotidienne. Il y a un certain retentissement, surtout les mots grossiers. Quand on dit le mot Gilles de la Tourette, tout le monde pense automatiquement tout de suite aux injures, aux mots grossiers, qui sont une manifestation possible du syndrome. La coprolalie, comme on l'appelle, donc les injures, c'est quelque chose de plutôt rare, très gênant pour la personne qui l'a, parce que c'est assez adapté au contexte, vraiment ce qui ne doit pas sortir dans la situation particulière, et le tic vocal qui finalement sort.
Donc ça peut être vraiment perçu comme une insulte par l'interlocuteur.
Ah oui. Alors mes collègues femmes médecins, elles sont les grosses salopes et le confrère africain, c'est le sale nègre. Et c'est extrêmement gênant pour le patient parce que ils ne sont ni sexistes ni racistes. C'est vraiment l'injure qui, au moment, est le plus interdite qui sort là-bas. Et là,
mais ça veut dire qu'il y pense quand même dans sa tête.
C'est certainement pas l'opinion du patient. C'est plutôt le fait qu'il ne faut pas faire ça, ne pas dire ça, qui le provoque. Bon, scientifiquement, on n'a pas expliqué ce phénomène, mais évidemment, parce que c'est un peu spectaculaire dans la manifestation, c'est ce que retiennent les gens. Il s'agit d'une manifestation très rare et un peu spéciale du syndrome de l'île de la Tourette, qui fait vraiment une minorité d'éthique en question, mais ça vient à l'esprit de tout le monde quand on entend Gilles de la Tourette. Un peu injustement parce que il y a des tics moteurs, vocaux qui tout autres, qui sont beaucoup plus présents et définissent aussi le syndrome.
Est-ce qu'on peut définir ce syndrome comme un trouble purement neurologique ou est-ce qu'il y a une composante plus psychologique, éducationnelle ?
Bon, c'est un syndrome qui touche vraiment aux deux domaines. Du côté neurologique, on peut dire que c'est vraiment un trouble du mouvement. Mais il y a aussi les conséquences du retentissement du syndrome. Déjà, si un enfant a des tics vraiment très forts, ça rend difficile, par exemple, la scolarité. Ça rend difficile de trouver des copains. Ça peut quand même être assez stigmatisant. Et par conséquence, il y a des troubles d'insertion sociale. Et souvent, une dépression est une réaction à un retentissement dû à une maladie neurologique. Donc ça, c'est bien normal. Et ça peut évidemment aussi arriver dans le syndrome de l'île de la Tourette. Donc il y a un peu les deux. Il y a les troubles psychiatriques qui sont quand même associés à la pathologie neurologique. Et il y a aussi la souffrance et les difficultés psychiatriques suite au retentissement des tics.
Est-ce que ce syndrome pourrait avoir une origine génétique ?
Mais très probablement, il y a une origine génétique, ou au moins une composante dans des familles. Donc, il y a la probabilité qu'un parent, un enfant, un frère ou sœur, est atteint de tics ou bien de TOC, est assez élevée chez les personnes avec un syndrome de l'île de la Tourette. Ça veut dire qu'il y a une composante héréditaire, mais on n'a pas vraiment su mettre le doigt dessus. Alors, il est vraiment très difficile d'identifier une cause. On a trouvé des gènes qui sont associés à un Tourette dans des familles rares, très particulières, mais la grande majorité des patients avec des tics reste sans explication génétique précise. Mais vu qu'il y a une association familiale d'éthique, on est sûr, ça doit exister. Ça doit exister d'une forme peut-être polygénique. Ça veut dire, ce n'est pas un gène qui en est responsable, mais plusieurs gènes qui doivent jouer ensemble de façon que la pathologie se manifeste.
Admettons qu'on trouve un syndrome Gilles de la Tourette chez un patient. Est-ce qu'on a une quelconque thérapie pour soigner ce Gilles de la Tourette ?
Oui, certainement. Bon, premièrement, souvent, il ne faut pas traiter. Il y a des gens qui vivent bien avec des tics. Si on doit traiter ou on veut traiter, c'est toujours une décision prise communément avec le patient. Donc, il faut que quand même le retentissement justifie un traitement. Bien sûr, et c'est le patient qui nous dira. Il y a bien sûr les médicaments. Malheureusement, il n'existe pas le médicament idéal pour traiter tous les tics. On a une longue liste de médicaments possibles à essayer. Ces médicaments, souvent, ont des effets indésirables, secondaires, même à long terme. Si les tics sont très gênants, les médicaments, souvent, soulagent de façon considérable. Il faut en choisir les bons. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter de vraiment essayer un après l'autre pour vraiment avoir fait le tour avant de donner forfait. Malheureusement, les traitements non médicamenteuses ne sont pas suffisamment utilisés parce qu'il y a vraiment la psychothérapie, la thérapie comportementale qui marche presque aussi bien que certains médicaments ou aussi bien que certains médicaments. Et il s'agit là vraiment de thérapie avec des psychologues spécialisés pour traiter les tics. Et c'est une approche sous-utilisée et peut-être aussi où il y a un manque de thérapeutes qualifiés.
Ça disparaît tout seul au bout d'un certain temps ?
Disons un tiers, très grossièrement, un tiers des patients qui le développent dans l'enfance ou l'adolescence le perdent au cours du temps. À peu près un tiers garde une forme d'une certaine sévérité et à peu près un tiers peut avoir une manifestation plus sévère et gênante plus longtemps au-delà des 20 ans. En général, on peut dire que les symptômes s'atténuent quand même au cours du temps. Donc avec l'âge, les tics deviennent plus modestes, modérés.
Michael Schubach, responsable du Centre des mouvements anormaux à l'hôpital de Lille à Berne. Bastien Confineau, pour terminer, dans les cas les plus graves, on ne pourrait pas imaginer contrôler le mouvement avec des électrodes qu'on implanterait dans le cerveau, comme on le fait pour Parkinson?
Alors, il y a des investigations qui vont dans ce sens, mais on en est aux prémices. Ce sont des interventions qui sont très lourdes, donc elles seront proposées qu'aux personnes les plus atteintes et chez qui rien d'autre n'a fonctionné. En plus, même avec les électrodes, les premiers essais montrent que ça ne fonctionne pas systématiquement.
Le syndrome Gilles de la Tourette, sujet préparé par Bastien Confineau. Plus d'infos sur tourette-romandie.ch.
Don't
La voix de Mr. Roger Daltrey et la guitare de Wilco Johnson. Il chantait « I keep it to myself ». Merci de nous avoir suivis en partie ou pour l'entier de l'émission ce matin. Trois sujets abordés à la découverte des paysages préhistoriques submergés en Grèce. C'est un nouveau projet archéologique emmené par le bateau Planète Solar et prévu pour cet été. On y sera d'ailleurs, hein, vous avez l'intention de les suivre, Bastien Confino.
Oui,
évidemment, ça se passe en Grèce en plein été. Oui, hein, bon. La foudre qui tue près de 20 fois plus en Amérique du Sud qu'en Europe aux États-Unis et le syndrome Gilles de la Tourette. Demain matin, le clonage d'une vache disparue, clonage à partir de l'un de ses poils retrouvés dans un musée. Est-ce que c'est faisable tout cela? Bastien France, les soucis, on se réjouit d'aborder cette question demain. Il est 11h sur la première.